Courant Porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Dans cette saison 2, je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui travaillent sur la recyclabilité des polymères. Cette thématique est un enjeu technique, politique et industriel majeur aujourd'hui, compte tenu des directives européennes de recycler 50% des plastiques d'ici 2025. Comment la recherche publique aide les entreprises, les institutions, face à la transition énergétique, numérique et environnementale? Je suis Laure Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes. Dans cet épisode, je reçois la chercheuse Yasha Osterban, qui dirige l'Institut supérieur d'ingénierie et de gestion de l'environnement, l'ICIGE, à Mines Paris PSL. Nous discutons dans un premier temps des enjeux autour de la recyclabilité des polymères, qui sont techniques, économiques et politiques, et qui nécessitent donc des collaborations entre chercheurs et industriels pour réduire l'impact environnemental des polymères et trouver des solutions durables. Dans un second temps, nous questionnons justement l'impact environnemental du recyclage dans l'industrie textile à travers une étude menée conjointement avec le Centre européen d'innovation textile, le CETI, et l'ICIGE. Cette étude a permis la réalisation d'une analyse de cycle de vie afin d'avoir une approche systémique et une évaluation globale du système dans les filières de recyclage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yasha Osterban, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Alors très rapidement, je suis Yasha Osterban, je suis ancien chercheur à Mines Paris et je dirige actuellement l'ISIGE qui est un institut qui est dédié aux questions d'environnement et de développement durable au sein de Mines Paris PSL.
Alors dans cette série, on discute des travaux menés par les chercheurs du Carnot Mines autour de la recyclabilité des plastiques, qui est au cœur des débats sur la transition écologique, puisque l'Europe a pour ambition de recycler 55% des polymères d'ici 2030. Donc dans cet épisode, on va parler plus précisément des enjeux autour de la recyclabilité, qui s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire. Alors, on entend beaucoup parler de ce terme. Est-ce que tu peux commencer par définir le principe de l'économie circulaire? À quoi ça correspond?
Il existe beaucoup de définitions d'économie circulaire, et certaines vraiment réglementaires, d'autres vraiment sur le principe. Et je pense que voilà, les éléments essentiels, c'est quand même de dire que actuellement, dans le passé, on avait une économie linéaire, c'est-à-dire on extrait des matériaux, on produit des objets, on les utilise et on les jette. Et l'idée, c'est quand même que ce n'est pas très optimisé, déjà en général, mais surtout pour des questions environnementales. Et c'est pour ça qu'on est revenu, quelque part, avec une idée d'économie circulaire, en s'inspirant soit de la nature, en disant qu'il y a des boucles dans la nature, soit de ce qu'on faisait avant, parce qu'avant aussi, on recyclait quand même beaucoup plus. Et l'idée, c'est donc de sortir de cette économie linéaire en créant des boucles. Et dans ce cadre-là, on parle assez souvent de 3 R, hein, donc réduire, réutiliser, recycler, et de plus en plus des 5 R. Donc on ajoute le refuser avant et le retour à la terre après, ce qui fait donc d'autant plus de boucles pour essayer d'être plus efficace avec nos ressources.
Refuser juste, c'est pour...
C'est-à-dire, par exemple, ne plus acheter des bouteilles, mais voilà, de refuser de prendre des pailles, par exemple, ou des choses comme ça.
Alors, la volonté politique dont je parlais en introduction se traduit par une réglementation, la loi AGEC, ou anti-gaspillage pour une économie circulaire, votée en 2020, et ça a changé en fait les modèles de consommation et de production, en invitant notamment les producteurs à intégrer, dès la conception, la gestion de fin de vie des produits. On en a d'ailleurs parlé dans l'épisode sur les T3E que je vous invite à écouter. Concrètement, quels ont été les effets de cette loi AGEC ?
Alors, les effets de cette loi, il y en a certains qui sont d'ores et déjà sensibles. Il y en a encore beaucoup à venir, parce qu'effectivement, la loi date de 2020, mais avec des dates de prise d'effet qui sont plus tardives. Donc, il y a des notions sur l'information des utilisateurs, des consommateurs, des obligations de réduction de plastique à usage unique, etc. Et petit à petit, on verra que, voilà, il y a de plus en plus d'informations qui va être disponible et de moins en moins d'outils d'objets à usage unique oui. disponibles.
On peut le voir déjà d'ailleurs par certaines grandes marques qui ont réduit mais qui ont changé leur type d'emballage ou ce genre de choses.
Tout à fait.
D'accord.
Mais donc c'est quelque chose qui va être de plus en plus visible. Il y a aussi dans cette loi-là l'obligation de faire des dons, par exemple, alimentaires, et on ne peut plus jeter des aliments. Si on regarde plus spécifiquement pour le plastique, donc il y a des obligations d'intégration de plastique recyclé dans des objets.
Quelles sont du coup là les implications pour les industriels ?
Donc effectivement, c'est des implications à différents niveaux. Il y a des implications très techniques, des questions très techniques. Un plastique recyclé ne fonctionne pas exactement de la même façon qu'un plastique vierge. Donc déjà, il y a des questions sur la qualité de la ressource première. Il y a des questions aussi de disponibilité, parce que maintenant, tous les industriels ont cette obligation de mettre du plastique recyclé. Mais est-ce qu'on a assez de gisements et de plastique recyclé de qualité suffisante qui serait disponible sur le marché? Question de prix, du coup, parce qu'actuellement, le plastique recyclé peut être plus cher que le plastique vierge. Mmh. Il y a aussi des questions, donc si on va au-delà du remplacement direct du PET par de RPET, par exemple, il y a des questions sur toutes les chaînes industrielles de montage, etc., voire jusqu'à les écosystèmes, parce que, du coup, quelque chose qui était un déchet devient quelque chose d'intéressant et
d'utilisable.
Et donc, on a tout un ensemble de nouveaux acteurs qui vont rentrer dans l'équation et dans la production. Et il faut retrouver comment travailler ensemble, quel lien de dépendance ou d'indépendance, quel lien économique, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent de l'ordre technique, économique et d'organisation.
Dans ton centre, en fait, vous avez mené une étude spécifiquement sur le textile pour étudier là l'impact environnemental du recyclage dans cette industrie en réalisant une analyse de cycle de vie, une ACV. On en a d'ailleurs parlé dans un épisode de la saison 1 avec Paola Pérez-López, que je vous invite aussi à aller écouter. Et donc une ACV, brièvement, c'est on mesure avec plusieurs critères les effets quantifiables de produits ou de services sur l'environnement, et ce, depuis la conception du produit jusqu'à sa fin de vie. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette étude ? Comment vous l'avez menée ? Quels sont les résultats ?
Donc, cette étude, on l'avait dessinée en disant que, finalement, au départ, l'idée avec l'économie circulaire, la loi AGEC et les autres lois qui sont actives dans ce cadre-là, l'idée, c'est quand même de réduire les impacts environnementaux, les impacts climat, les impacts sur les déchets, etc. Et donc, la question, c'est est-ce que si on va utiliser du plastique recyclé, ou du textile recyclé, est-ce qu'on réduit réellement les impacts environnementaux, mais en le regardant au niveau du système, donc pas process par process, mais bien tout le système avec le collecte, le tri, la préparation et les pertes aussi dans ces process. Donc c'était ça l'idée de départ. Donc c'est une étude qu'on a fait avec le Centre européen des textiles innovants, le CETI, et avec lesquels donc on a mené une étude avec Manisha Marival, qui est l'étudiante qui a travaillé sur la question, pour voir donc pour mesurer notamment les impacts sur la consommation d'eau la consommation d'énergie et donc les implications pour le changement climatique. C'était appliqué à la création d'un fil de coton. On allait comparer la fabrication d'un kilo de fil ou de fibre de coton vierge par rapport à un fil de coton, donc toujours un kilo, avec 30% de matière recyclée et 70% de matière vierge. Il faut savoir que pour l'instant, il n'est pas possible de créer des fils de coton 100% recyclés parce qu'on perd toutes les propriétés qui en font quelque chose d'intéressant pour faire des textiles. Donc effectivement, on est toujours sur un mélange. Les premiers résultats ne sont pas très surprenants. Mais il était important de... Donc, effectivement, il y a un moindre impact si on utilise des matériaux recyclés. Mais il était important de savoir un peu dans quelle mesure la réduction se faisait en fonction aussi de la qualité du fibre qu'on obtient à la fin. Mm-hmm. Parce que l'idée avec le recyclage, c'est... Dans cette optique, avec le CETI, c'était de faire du boucle fermée ou du closed loop, c'est-à-dire qu'on prend du textile, on recycle du textile pour en refaire du textile. Parce que très souvent, on a ce qu'on appelle du downcycling, c'est-à-dire on va prendre les bouteilles en PET, mais par le principe de recyclage, on n'obtient pas la même qualité, donc on ne peut plus en refaire des bouteilles, et on peut en faire par contre des vêtements de sport, par exemple. Et souvent, le textile, quand c'est recyclé, c'est utilisé par la suite comme matériau d'isolation. Et donc l'idée, c'était vraiment d'étudier ce côté boucle fermée et récupérer quelque chose pour la même fonctionnalité.
Est-ce qu'il y a d'autres résultats sur cette étude ?
L'étude, en général, en fait, l'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux de où est-ce qu'on en est dans le recyclage textile et quels sont les différents impacts, les freins aussi. Parce qu'effectivement, on a constaté qu'on n'est pas encore très loin dans le recyclage du textile dans un boucle fermé, que ce soit pour le coton, que ce soit pour le polyester ou pour les matériaux mélangés. Et donc, effectivement, dans un premier temps, il fallait déjà voir pourquoi on n'est pas aussi avancé que ça, tout en faisant en parallèle, parce qu'il n'y a pas que des freins techniques, en fait. Donc la partie sur l'évaluation environnementale a porté notamment sur la partie technique, mais voilà, il y a tout un ensemble.
Tu parlais tout à l'heure des coûts aussi. Est-ce que ça peut être parfois que le recyclé peut être parfois plus cher que de la matière vierge ?
Il y a ça, mais il y a surtout tout un aspect de toute la filière, c'est-à-dire pour pouvoir recycler quelque chose, il faut le récupérer. Et donc, effectivement, il y a des grands freins au niveau de la collecte et du tri. Parce que pour pouvoir avoir un process techniquement solide de recyclage, il faut avoir la matière entrante extrêmement pure, en quelque sorte.
Oui, or, souvent, c'est des textiles avec des matières mélangées, c'est ça ?
C'est des matières mélangées, c'est des... De toutes sortes, de mélanges de toutes sortes, avec effectivement des additifs volontaires ou non volontaires, avec des coutures, des étiquettes, des zips, des boutons.
Oui, on a un petit peu d'ailleurs parlé de ces sujets-là dans l'épisode avec Marion Négrier sur une nouvelle technique de upcycling sur laquelle elle travaille. Mais d'accord, oui, donc les problématiques et de mélange des matières et de coûts et de collecte, comme tu disais, et du tri.
Il y a aussi une dimension logistique, c'est-à-dire où est-ce qu'on fait le tri, où est-ce qu'on fait le collecte, où est-ce qu'on fait la massification, pendant combien de temps on peut stocker ça, comment on fait la distribution vers les différentes installations si existantes de recyclage.
À quel point est-ce que ça s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire, finalement, la problématique du recyclage des textiles ?
Effectivement, Au début, j'avais parlé qu'il y a différents leviers dans l'économie circulaire. Il n'y a pas que le recyclage. Quelque part, le recyclage, c'est quand même le dernier levier. Bon, il y avait effectivement retour sur la Terre. Mais il y a tout un ensemble d'autres leviers qui est la réparation, qui est le réemploi, la réutilisation. C'est-à-dire que quand même, et ça existe déjà, le réemploi de vêtements...
Oui, seconde main.
Seconde main, ouais. etc. C'est... environnementalement, en principe, beaucoup plus performant que de prendre un vêtement, de le recycler et de refaire un vêtement. Donc, effectivement, il y a pas mal d'autres leviers et je pense qu'il ne faut pas parier que sur le recyclage. Mais à un moment donné, un vêtement arrive en fin de vie et donc, effectivement, c'est bien quand même d'avoir aussi cette corde à son arc de l'économie circulaire.
Est-ce que tu sais s'il y a d'autres ACV qui sont réalisés dans d'autres domaines, dans d'autres chaînes où il y a une nécessité de recycler, je ne sais pas, sur dans les bouteilles, dans les D3E, dans...
Il y a beaucoup d'ACV qui sont réalisés. C'est quand même un outil extrêmement puissant pour pouvoir évaluer si une solution est environnementalement vraiment intéressante ou pas. D'une part... D'autre part, ça devient une obligation très prochainement, parce que, par exemple, dans la loi AGEC, il y avait l'information des consommateurs, et donc, effectivement, de plus en plus d'objets auront une déclaration de performance environnementale qui est alimentée par une analyse de cycle de vie simplifiée. Donc oui, c'est un terrain dans lequel il y a pas mal de recherches.
Et c'est quoi la partie, finalement, qui... pollue le plus, enfin qui émet le plus de gaz à effet de serre. Tu disais tout à l'heure que les différentes étapes, que ce soit du tri, recyclage, ne sont pas au même endroit. Du coup, j'imagine qu'il y a une question du transport. Est-ce que l'ACV permet de déterminer ça ?
Dans ta question, tu poses quelle est l'étape qui pose le plus de, qui émet le plus de gaz à effet de serre. Justement, l'attrait et la force de l'analyse de cycle de vie, c'est qu'on ne va pas regarder que cet effet-là, mais on va aussi regarder d'autres impacts, par exemple par rapport à l'eau ou par rapport à des substances qu'on va émettre dans l'environnement. Selon la nature des textiles, les impacts ne se situent pas au même endroit. Dans la fabrication, notamment de coton, on va avoir un très fort impact en termes d'eau et en termes de substances chimiques qu'on va mettre dans l'environnement, par exemple, que ce soit pour la production. Et après, il y a également des impacts lors de l'utilisation liés au lavage, etc.
J'ai lu d'ailleurs dans les résultats de l'étude que vous avez réalisée qu'il y avait une recommandation qui pouvait sortir d'ajouter la pollution des microplastiques comme nouvelle catégorie d'impact. Est-ce que tu peux peut-être me dire juste un mot là-dessus ?
La question des micropolluants plastiques, c'est une très grande question sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Justement, récemment, il y a une étude qui est sortie qui stipule qu'on a peut-être surestimé la quantité de polluants plastiques dans les océans. Il y a d'autres études qui existent qui disent qu'il y a juste une toute petite partie des polluants qui arrivent dans les océans et il y a une grande partie qui reste sur la Terre. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, c'est quand même une question importante parce qu'on a démontré la présence de micropolluants dans les eaux de consommation, par exemple. Donc, après, ta question, c'était vraiment est-ce qu'il faut mettre ce paramètre-là dans l'ACV ? C'est difficile à dire parce que, justement, l'ACV, déjà, on fait une agglomération de différents polluants pour en faire un seul indicateur.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas... Voilà, c'est un outil qui permet de faire un premier tri pour identifier les grandes étapes les plus impactantes ou les plus gros impacts. Et ensuite, il faut aller plus en détail. Mais il faut peut-être prendre ce paramètre-là pour l'incorporer dans un des grandes catégories qui est déjà identifié. Mais ça ne plaide pas forcément pour le recyclage, hein, parce qu'effectivement, après un processus de recyclage, on a des fibres plus courtes et donc, effectivement, on a potentiellement plus de risques d'émettre des particules fines, parce que c'est moins solide.
Oui, donc c'est comme ça que... Moi, j'avais lu que c'était 30%, mais pareil, là, c'est... les chiffres peuvent être discutés, mais 30% des microplastiques du coup retrouvés dans les océans viendraient de l'industrie textile, en fait.
Oui,
ça, c'est à peu près les ordres de grandeur.
Ça, effectivement, c'est des choses que moi, j'ai lues aussi. Et après, c'est la question... En lien avec le recyclage, oui. Est-ce qu'il serait à tester si les fibres recyclées émettent beaucoup plus de microplastiques que des fibres non recyclées ?
C'est quelque chose, c'est une question en fait.
C'est une question qui pourrait être étudiée plus en détail et qui l'est peut-être déjà quelque part.
Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu aimerais déconstruire dans ton domaine ?
Bon, là, comme ça, il n'y a pas d'idées reçues vraiment à déconstruire, mais il y a un message que je veux redire, qui est autour du recyclage, qui est donc, certes, qui fait partie des solutions pour arriver à un système de production plus performant, plus efficace par rapport à son utilisation de ressources et moins impactant sur l'environnement, mais que c'est une partie de la solution et que ça vient avec d'autres solutions qui sont de prolonger la vie des objets, de se poser la question, est-ce que cet objet-là, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Parce que le recyclage à 100% n'est, en tout cas sans impact environnemental, n'est pas possible. Et donc ça, il faut vraiment... Donc je ne pense pas que ce soit vraiment une idée reçue, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas parce qu'on recycle qu'on n'a pas d'impact sur l'environnement. On en a un peu moins, mais il y en a toujours. Et donc, il est important de continuer à réfléchir sur des nouvelles solutions avec une approche vraiment systémique, c'est-à-dire prendre en compte tout le système et pas uniquement objet par objet, ce qui va nécessiter plus de collaboration, plus de transparence et des innovations techniques, mais aussi socio-économiques pour un écosystème national, européen, voire mondial. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses à chercher, à trouver, mais il est indispensable d'avoir une approche systémique.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Courant Porteur sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le site de l'Institut Carnot Mines. Les liens d'écoute sont en description. À bientôt.